Cube Radio.
Les jeux sont faits. Les Chiefs et les Eagles ont rendez-vous pour le Super Bowl 57 à Phoenix, en Arizona, le 12 février. Il aura fallu une blessure au coude pour sortir Brock Purdy et les Niners. Et les décisions controversées des arbitres pour sortir les Bengals. Est-ce que ce sont les deux meilleures équipes de la NFL qui joueront au Super Bowl? 32 équipes, 32 choses à surveiller. La zone payante passe en revue toutes les équipes de la NFL et identifie leurs devoirs pour la saison morte. En route vers le repêchage de la NFL, deux Québécois seront à surveiller dans les prochaines semaines. La zone payante vous les présente. Broncos Country, let's ride. Et cette fois-ci, avec Sean Payton. Tout ça et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous. Bonne semaine, bon début de semaine, bonne semaine pour ceux qui nous écoutent. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, heureux de vous retrouver. Je suis en compagnie de notre expert de football et journaliste au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadorette. Salut Steph.
Salut Jean-Nic, comment ça va?
Très bien, pas autant que toi qui a passé une semaine de rêve à Philadelphie.
C'était le fun, c'était vraiment le fun. J'adore ça. Tu sais, la finale de conférence, c'est sûr que le match était horrible, on va se le dire. Là. On n'a pas eu de match, on aurait peut-être dû en avoir un. On en parlera, mais comme environnement de football à Philadelphie, comme ville, tu sais, c'était très très belle expérience.
Puis, raconte-nous un peu, je pense que t'as fait des rencontres très enrichissantes. Ouais. T'as été là un bon bout de temps et que t'as vu un peu comment que la ville se préparait pour le football dimanche.
Ben oui, c'est ça. Juste la ville pour commencer, tu sens là-bas que c'est un marché mordu. Tout le monde est habillé en Eagles. Ça passe dans la rue, ça se salue, go Birds. La ville était aux couleurs des Eagles. Les buildings éclairaient en vert le soir. Des affiches des Eagles partout. Il y avait une ambiance vraiment fébrile, ça se sentait. Puis tu sais, jusqu'au samedi soir, la veille du match, une espèce de gros show avec des drones. Je t'ai envoyé des photos l'autre jour.
Ouais, c'était incroyable ça.
J'en ai publié sur Twitter aussi. C'était quelque chose de voir ça là. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce qu'une équipe de foot peut faire dans une ville? C'est hallucinant, ça vire la ville à l'envers. Ouais. Puis côté rencontre, ben tu sais, j'ai été vraiment chanceux. J'ai adoré le film Invincible avec Mark Wahlberg, tu sais, qui joue la vie de Vince Papale, l'ancien des Eagles, qui était arrivé avec les Eagles comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, Dick Vermeil, l'entraîneur, qui avait tenu un camp pour des gens là qui n'avaient pas nécessairement une expérience dans le football universitaire. Il avait dit c'est ouvert à tous, puis on verra ce qui sort de là. Il en était sorti un, puis c'était lui, Vince Papale. Il avait joué beaucoup sur les unités spéciales. Il avait même été élu parmi les capitaines de l'équipe. Son histoire avait inspiré tout le monde. J'arrive au stade dimanche matin, puis je le croise. Tu sais, c'est quoi les chances? Fait que j'ase un peu avec lui, très sympathique.
Mais t'as été bon de le reconnaître, là, parce que le film, on s'entend qu'on le voit pas beaucoup. Là. Je pense peut-être à la fin, on voit des vraies images. Là, mais...
Ouais, puis ça date de 2006, le film. Fait qu'il a quand même pris quelques rides depuis. Mais non, là, je le reconnaissais. Je l'ai tout de suite, j'ai flashé, parce que j'ai vu ce bonhomme-là qui prenait des photos, puis des photos, puis des photos. Les fans sont encore fous de lui. Là. Et t'sais, c'est pas comme si, ah, c'est qui ce vieux monsieur-là, pis on sait pas trop c'est qui. Là, non, il est très connu là-bas, très respecté. Fait que ça a été une belle rencontre, bien le fun avant le match. Puis après ça, ça a dérapé. Là. On va en
parler. Bon, ben parlons-en match. Des matchs, si tu veux bien, là, parce que il y a plusieurs personnes qui sont déçues de pas avoir vu un match et d'avoir vu les 49ers là, quasiment regarder les estrades là, pour trouver quelqu'un qui était capable de lancer le ballon.
On était rendu là.
Est-ce que, d'abord, est-ce qu'ils t'ont considéré là, quand ils ont perdu les deux camps arrière? Et ensuite, est-ce que tu penses qu'avec un Brock Purdy en santé, on aurait eu un match parce que les Eagles semblent avoir une destinée?
Ben, ils m'ont considéré, pour répondre à ta première question.
Oui.
Non, mais je flatte
pas. Hey, Cadorette!
C'est juste que moi, j'ai refusé parce bats. Que moi, j'ai demandé que ce soit toi, mon wide receiver 1.
Oui.
Et là, c'est là que le plan a déraillé complètement. Ils m'ont dit non, t'exagères, tu sais. Puis J'avais peut-être des demandes élevées là, pour eux, mais bon, ça s'est pas fait. Ça se fera peut-être une autre fois, qui sait.
C'est malheureux.
Mais pour en revenir à Monsieur Purdy, tu sais, c'est de valeur parce qu'on saura jamais le match qu'on avait eu. Là. Il reste que il avait commencé la rencontre quand même 3-3. C'est un très petit échantillon. Puis, tu sais, certains diront, ouais, 31-7, là, c'est pas Purdy qui aurait changé quoi que ce soit. Peut-être. Mais il reste que tu avais un corps arrière en pleine possession de ses moyens qui pouvait lancer le ballon, qui pouvait faire en sorte que des choses se produisent. Puis là, tu perds ça d'un coup sec. C'est Josh Johnson, pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est qui, là, celui qui rentre en relève. Il est à sa 15e équipe dans la NFL. C'est son 4e séjour avec les 49ers. T'sais, c'est un gars qui se promène de ville en ville en ville en ville. Pourquoi? Parce que c'est un réserviste de carrière qui ne demandera rien, qui ne dira pas un mot plus haut que l'autre. Il a fait sa place, mais c'est jamais plus que ça. Il se blesse à son tour. Fait que Purdy revient, mais Purdy, le problème, c'est qu'à ce stade-là, il ne sait pas, mais il y a un ligament du coude complètement déchiré. Dès qu'il passe sur les lignes de côté, on l'a vu s'échauffer ses lignes de côté, là, je sais pas combien de fois entre les pauses publicitaires, puis c'est des très courtes passes, puis lancé très mollement. Donc, une fois que tu arrives en situation de match, tu peux rien faire avec ça. Ça a changé complètement le déroulement du match. Tu sais, les Niners ont lancé la serviette assez tôt. Fait qu'on saura pas le match qu'on aurait pu avoir. Ça enlève absolument rien aux Eagles qui ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Tu sais, les fronts ont...
Parce que la défensive des Niners, je comprends que l'attaque restait pas longtemps sur le jeu, mais ils ont quand même enfoncé 31 points.
Exact. Tu sais, fait qu'il faut pas enlever rien aux Eagles. C'est pas comme si c'était une victoire par défaut, là. Mais tout ce que je dis, c'est dommage, on n'a pas eu le match qu'on aurait pu avoir. Mais cela dit, on a vu des Eagles complètement prendre le contrôle des deux fronts. Ça, c'est impressionnant. Là. Tu luttes contre des gars comme Nick Bosa, Arik Armstead. Ça paraît même pas.
Quand ils se blessent sur la ligne de côté.
C'est ça, exactement. Fait que la ligne à l'attaque a pris le contrôle, la ligne défensive aussi. On l'a vu encore à Sun Riddick, c'est un monstre. Franchement, ils ont fait tout ce qu'ils allaient faire.
Puis l'autre bord, là, les Chiefs et les Bengals. On a vu toute la game, ouais. On en reparlera peut-être tantôt, là, les arbitres là, qui ont eu de la difficulté à pas soulever l'ire des entraîneurs, particulièrement du côté des Bengals. Est-ce que tu considères que la meilleure équipe a gagné à Kansas City?
Ben, c'était deux équipes pas mal nées à nez. Là. T'sais, pour moi, ça aurait été les Bengals ou là, c'est les Chiefs. Écoute, c'est nez à nez pour moi. Je suis pas de ceux qui considèrent qu'on n'a pas les meilleures équipes au Super Bowl. Les deux, les Eagles et les Chiefs, étaient number one seed. C'est pas pour rien. Quand t'es numéro un dans ta conférence, t'as certainement accompli des bonnes choses. Là, faut pas non plus cracher sur ce que les Chiefs font. Je sais qu'il y en a qui commencent à être tannés. Ça me fait penser un peu à l'époque des Patriots. Quand les Patriots se rendaient au Super Bowl année après année après année, ou en tout cas au moins en finale de conférence, les gens n'en pouvaient plus, ils se bouchaient le nez. Là, ça commence à faire cet effet-là avec les Chiefs. C'est leur 3e Super Bowl en 4 ans, leur 5e finale de conférence de suite. Mais faut pas se laisser aveugler par ça. Ça reste une excellente équipe, très bien dirigée. Le fait est que les calls des arbitres, ça a laissé un goût amer. Puis là, je parle pas en termes seulement de partisans des Bengals. En termes d'amateurs de football, il y a plusieurs appels très douteux. Tu sais, le fameux 3e essai qui a été joué, mais repris, complètement annulé, repris comme s'il n'y avait rien eu. La pénalité là pour intentional grounding, là, ça a débarrassé du ballon qui a été infligé à Joe Burrow. Tout le monde a vu que ça m'a JP Ryan n'était pas loin du ballon. Tu sais, c'était louche un peu. Il y a un bloc dans le dos qui a été raté sur le fameux retour de dégagement de Sky Moore qui a positionné les Chiefs là sur leur dernière séquence de manière très avantageuse. Il y a eu plein de calls et de non-calls comme ça qui ont semblé jouer en faveur des Chiefs. Ça, c'est dur à nier, là. Mais honnêtement, je considère quand même que les Chiefs ont ce qu'il faut pour aller au Super Bowl. C'est pas des imposteurs. Joe Burrow, faut pas oublier une chose, là. Les Bengals et Joe Burrow ont eu le ballon 2 fois dans les 10 dernières minutes.
C'est vrai. Ils ont eu leur chance.
Il s'est rien passé. Je suis pas en train de dire qu'ils sont pas bons. Puis je voyais des commentaires sur Twitter. Bon, Joe Burrow et pas Tom Brady. Écoute, là, y en aura-tu un autre Tom Brady? Faut-tu toujours en revenir à Tom Brady? Bon, ben, tu sais, à un moment donné, moi, je me dis, Il y a eu des occasions.
Tom Brady n'est pas le seul corps arrière qui a des remontées avec la dernière possession non plus.
Ouais, c'est ça. Là, t'sais, il y en a d'autres. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis pas de ceux qui disent les Chiefs ont pas d'affaires là, puis les Bengals étaient une bien meilleure équipe. Je suis pas d'accord. Mais c'est certain qu'il y a eu une passe à la palette là, des arbitres.
OK, beaucoup d'actu là, cette semaine. D'abord, débutons avec une autre annonce de retraite de Tom Brady. Là. Je sais pas si on... Tu sais, l'année passée, c'était le même film. Là. Il a annoncé sa retraite alors que la saison venait de se terminer. Puis il est revenu, il a annoncé qu'il allait faire un retour. Là, on dirait qu'il y a moins d'équipes d'intéressés. Mais tout de même, là, Tom Brady qui annonce sa retraite entre la demi-finale et la finale du Super Bowl. Ça te dit quoi? Est-ce que c'est cette fois-ci, c'est la bonne, d'après toi?
Quelle question, ça! C'est la question, évidemment. Là. L'année passée, écoute, ça semblait pas être pour de bon aussi. Là. J'ai l'impression qu'il peut pas faire ça deux années de suite. Là. À un moment donné, il se couvrirait un peu de ridicule. Fait que je vais lui donner le bénéfice du doute, personnellement. Là, j'ai l'impression que c'est terminé.
Parce qu'il n'y a pas tant de fenêtres ouvertes pour lui. Là.
Il y en aurait eu. Je peux pas croire qu'une équipe s'intéresserait pas à lui. Mais j'ai l'impression qu'il a trouvé la saison particulièrement éprouvante. Là. Sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, c'était loin d'être facile. Il y a un moment donné que tout ça doit lui peser très, 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 très lourd. Fait que ça finit que peut-être qu'il en est venu à cette conclusion-là. Est-ce que si, sur le plan personnel, ça avait été différent, qu'il n'y avait pas eu le divorce à traîner, puis tout ça, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'énergie pour poursuivre, on le saura jamais. Mais écoute, non. J'ai vraiment de la misère à croire, Jean-Nic, que le gars, deux années de suite, va dire c'est terminé, puis finalement, c'est pas terminé. Écoute, je pense que c'est la fin. Puis si c'est le cas, ben chapeau là, Tom Brady, honnêtement, j'espère.
Ouais, mais là, ceux qui voudront une émission hommage à Tom Brady, ils ont juste à écouter à peu près la même émission de la zone payante l'année passée à la même date.
Ouais, ressortait le tape. Mais tu sais, non, c'est une grande carrière, là. On va le redire et le redire et le redire, là. Je pense que, écoute, je suis conscient que t'es pas son plus grand fan, mais je pense que t'es capable de respecter les accomplissements puis de, je pense que ça va être très difficile de revoir ça un jour. Honnêtement, là, tu sais, cette Super Bowl, c'est vraiment une grande, grande, grande carrière. On ne sait plus quoi dire à un moment donné parce qu'il y en a eu des hommages, il y en a eu un puis un autre, mais je pense que les gens sont capables de voir que c'est un phénomène qu'on n'est pas prêt de revoir. Tu sais, un Patrick Mahomes est peut-être plus talentueux, honnêtement, que Tom Brady. Là. Mais là, il y a des gros matchs à aller chercher. Ouais, il y a des gros matchs. Puis ça se mesurera pas juste en 7 Super Bowl. Mais quand même, il faut que tu ailles les chercher là, de temps en temps, ces matchs-là.
OK. Bon, mais Sean Payton, lui, qui est de retour avec les Broncos. Les Broncos qui ont donné un autre choix au repêchage, le choix qu'il avait acquis de la part des Dolphins pour l'échange de Bradley Chubb. Et un deuxième choix au repêchage l'an prochain. Là, les dépisteurs à Denver, ça sert quasiment plus à rien d'en avoir. Je pense qu'ils ont fait le premier choix jusqu'en 2026.
Il va falloir qu'ils jouent comme les Rams, là, c'est-à-dire aller chercher des choix de 5-6e ronde puis en faire des vedettes. C'est ça que les Rams ont réussi à faire. Mais c'est pas tout le monde.
Rapidement, qu'est-ce que tu penses de cette acquisition pour les Broncos?
Ben, moi, c'est pas tant la décision de donner des choix pour Sean Payton. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Il appartenait aux Saints. Là. C'est pas comme si Sean Payton était libre et que tu pouvais le ramasser dans la rue. Là. Le fait est que t'as payé très cher pour Wilson, tu paies très cher pour Payton. Là, t'es complètement dégarni. Là. Ça, c'est ça qui fait mal. Mais écoute, les Broncos, là, ça fait pitié depuis maintenant presque 10 ans. Depuis le dernier Super Bowl, ben quoi, c'est 2015. Ils se cherchent, ils se cherchent, ils se cherchent. Ils n'ont pas eu une attaque dans le top 20 depuis 2015. T'sais, là, je te parle pas de top 10, top 5, top 20. Ça veut dire que c'est de la médiocrité année après année. À un moment donné, ils ont vu ce gars-là disponible. Sean Payton, là, de 2006 à 2021, en moyenne, les Saints ont marqué 27,5 points par match. Ça, c'est le deuxième meilleur total de la Ligue sur cette période-là. 391 verges par match, ça c'est le meilleur total. Tu sais, c'est un gars qui a fait ses preuves, là, tu vas me dire, ouais, mais il y avait Drew Brees. C'est sûr.
Il y avait Drew Brees, puis il y avait quand même, je sais pas, une équipe un peu parfaite là, pour que l'attaque marche. Là,
là ben bon. C'est ça. Il va falloir recréer la magie. Puis j'imagine que si tu es dans la peau des Broncos, tu as un propriétaire qui a beaucoup d'argent. Tu te dois là, de dire, écoute, faut se donner tous les moyens possibles. On va le payer, on va donner les choix. Faut que cette attaque-là redevienne efficace. Il faut absolument. Donc, c'est okay. Un peu là, là qu'ils sont rendus. Ils étaient comme un petit peu pris, puis ils ont décidé d'aller s'élancer pour le coup de circuit.
OK, on finit avec les actus de la semaine. Le Senior Bowl qui s'en vient cette semaine, là, les joueurs pratiquent. Ouais. On a deux Québécois, ben, en tout cas, un qu'on surveille particulièrement. C'est Mathieu Bergeron qu'on a déjà eu ici à l'émission. Qu'est-ce que tu vois jusqu'à maintenant là, de son parcours, puis à quoi on doit s'attendre? Quelle position il joue, si on peut faire un rappel?
Ouais, Mathieu, bloqueur, originaire de Victoriaville. Il a joué à Syracuse les quatre dernières années. Il a été très performant. Il a même été nommé dans les capitaines de l'équipe. Tu sais, un gars comme lui qui arrive au Senior Bowl, c'est pas fréquent qu'on voit ça. Là. C'est le deuxième Québécois seulement qui est invité au Senior Bowl. Puis on a vu ce que ça a donné pour Benjamin Saint-Just. Ça lui a valu d'être repêché en troisième ronde là, après son Senior Bowl il y a 2 ans. Donc, c'est très gros. Puis en ce moment, ben, c'est ça. Il y a eu une journée d'entraînement jusqu'à maintenant. Il a été très dominant. Moi, ce que j'ai vu de la première pratique du Senior Bowl, il a été vraiment très dominant. Il s'est pas fait prendre à contre-pied ben souvent. Puis, tu sais, pour te donner une idée, Paul Alexander, qui est un vétéran, le coach de ligne offensive de très longue date, il a formé beaucoup de bons joueurs dans la NFL. Il a dit lui-même là, sur Twitter que Bergeron avait été à surveiller, qu'il avait été très dominant. Ça fait quand même quelques années qu'il parle de lui en bien. Fait que c'est très encourageant pour Bergeron. Il va avoir le combine aussi bientôt. Puis ce qui est intéressant, ceux qui veulent surveiller les pratiques et le match samedi du Senior Bowl, ben tout est sur NFL Network. Puis je parlais du combine, juste un mot sur un autre Québécois. Sidy Sow, on a moins parlé de lui. C'est un garde, il joue à Eastern Michigan, il est originaire de Bromont.
Comment il s'appelle?
Sidy Sow. S-O-W.
OK.
La semaine passée, lui, il a participé au NFLPA Collegiate Bowl. C'est un autre bowl pour des espoirs là, au niveau NCAA. Il a bien paru, puis ça lui a valu aussi une invitation au Combine à Indy. Donc, ce qui veut dire que début mars, là, j'en ai qu'on va avoir deux Québécois au combine de la NFL. Wow. Ça, c'est du jamais vu. Honnêtement, là, il y en a eu des fois un, mais deux, c'est du jamais vu. C'est très encourageant pour la suite des choses pour ces deux gars-là.
Fantastique. Merci, Steph, pour ce tour d'horizon de l'actualité. Grosse semaine d'actualité quand même entre les deux matchs. Et maintenant, c'est les questions du public. Ça aussi, je vais vous dire, les auditeurs ont beaucoup de questions. Après la pause, bougez pas, on revient. Question du public. Vous êtes sur la zone payante. C'est maintenant l'heure des questions des auditeurs. Beaucoup de questions cette semaine. Merci de vos questions. On va commencer à tout seigneur, tout honneur, avec la retraite de Tom Brady. Jérôme qui nous pose la question. Bonjour à vous deux. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de la carrière de Tom Brady?
Merci. Ouais, là.
Des bons balados.
Il y en aurait pas mal, hein, des bons et des mauvais souvenirs. Moi, vite comme ça, je te dirais le meilleur, ça n'a pas le choix d'être le Super Bowl contre les Falcons. Encore une fois, partisan ou pas, tu sais, la remontée de, c'était quoi? C'était 28-3 au troisième quart. C'est des choses, ça, tu devrais enseigner ça aux jeunes, la détermination, leur montrer ces vidéos-là, tu sais. Peu importe là, que t'es fan des Pats, c'était grandiose, honnêtement, comme match, de le voir remonter ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Tom Brady ou de fans des Patriots qui vont dire, en bout de ligne, que c'est le moment qui a peut-être défini qui est Tom Brady, c'est quoi sa carrière. En tout cas, pour moi, c'est ça. Puis le pire, ben, je sais pas toi ce que tu verrais. Là, il y en aurait quelques-uns, là, mais moi, c'est le Super Bowl perdu, je te dirais. Celui qui aurait dû gagner, c'est l'année 2007 là, avec Randy Moss. c'était une attaque complètement inarrêtable. Il battait tout le monde. Ah, regarde, il battait tout le monde. Rappelle-toi des scores. C'était même fâchant des fois parce qu'on se disait, il mène 42-0 puis il continue à passer comme des sauvages au quatrième quart. C'était une attaque assassine. Bill Belichick avait pas de pitié. Brady non plus. Ça, là, c'est comme une tâche, pas au dossier de Brady, mais au dossier des Patriots plus, là. Mais honnêtement, cette saison-là, saison invaincue, il arrive contre les Giants au Super Bowl, puis il s'écrase. Honnêtement, ça, c'est probablement le pire là en ce qui me concerne.
Moi, c'était formidable, mais on en reparlera peut-être.
Toi, c'est ton meilleur, ça. Hein, c'est
ça. Ben moi, non, mais moi, mon meilleur souvenir, c'est sûr que moi, je suis pas un partisan de Tom Brady, mais la fois où j'étais le plus heureux, c'est quand, après tout, plusieurs années, plusieurs rumeurs que les Pats faisaient toutes sortes de stratagèmes pour gagner des matchs. Des fois, ils se faisaient prendre, des fois, ils se faisaient pas prendre. Mais mon meilleur souvenir, c'est quand même quand Tom Brady s'est fait suspendre pour avoir désoufflé les ballons intentionnellement pour que ses receveurs aient plus de facilité à l'attraper. Puis c'est là que Tom Brady a commencé à avoir son lustre un peu abîmé, là, tu sais. Fait que pour moi, mon meilleur souvenir, c'est quand il était suspendu pour avoir triché.
Le lustre n'a pas été abîmé longtemps parce qu'après ça, il s'est mis à regagner, par gagner, par gagner des Super Bowls.
Oui, mais là, on ne sait pas s'il a triché, là, parce que là, cette fois-ci, il s'est fait prendre, là, mais les autres fois, on ne le sait pas. Là, parce que rappelez-vous, quand il filmait les signaux des autres équipes, quand il filmait les pratiques des autres équipes, fait, il y a quand même, disons qu'il y a une grosse histoire. Je comprends que son œuvre est plus grande que ça, mais il reste qu'il y a toujours cette tâche autour de Tom Brady quand il était suspendu pour tricherie. Puis mon pire souvenir de la carrière de Tom Brady, mais on souhaite jamais ça arriver à tout le monde, c'est quand même l'année où il s'est blessé. Là, tu sais, là, premier match de la saison, grosse blessure au genou en 2008.
Ouais, c'est vrai, ça.
Alors que, tu sais, plusieurs... Tu sais, voyait là, peut-être la carrière de Tom Brady terminée. Puis c'est une année où ils ont pas fait les séries. Puis les Dolphins avaient fini premier de la saison. Puis moi, étant partisan des Dolphins, j'aurais aimé voir Tom Brady dans l'alignement pour voir si les Dolphins avaient pu aussi aller chercher la première place malgré la blessure de Tom Brady.
Les Pats avaient fini 11-5 cette année-là. Ouais. Ils n'avaient pas fait les séries, mais on s'entend qu'à 11-5, c'était un peu une anomalie. C'était Matt Cassel, le corps arrière. J'ose pas imaginer, il aurait fini combien avec Tom Brady.
Ah, ben, c'est ça. Peut-être que ça aurait été le même résultat. Peut-être pas. On le saura jamais. Alors voilà pour nos souvenirs de Tom Brady. En espérant qu'on n'aura pas l'année prochaine à refaire une émission en parlant de nos souvenirs parce qu'il vient d'annoncer sa retraite.
Ouais, ça se peut.
Olivier nous pose la question. Je n'ai pas compris lors du quatrième quart. Oh, attendez un petit peu, par exemple. Voilà.
Oui, le sifflet était de mise.
Olivier, donc, je n'ai pas compris lors du quatrième quart entre les Chiefs et les Bengals quand les Chiefs étaient au quatrième essai que les arbitres ont pris la décision de revenir au troisième essai et d'ajouter du temps au cadran. Alors, ma question, pourquoi les arbitres ont pris cette décision?
Écoute, on n'a pas compris personne. Ça a été très, très bizarre comme moment. Ce qu'ils ont expliqué par après, les arbitres, là. Tu sais, je suis allé voir les explications parce qu'il y a toujours un seul reporter désigné avant une rencontre qui a le droit, après un match, d'aller poser, genre, je pense que c'est 3 questions à un officiel en chef. Donc, les officiels, en passant, confrontent jamais les médias là, après un match. Là. Donc, ça s'est limité à ça. Lui, ce qui a expliqué l'arbitre, c'est... Il a dit le jeu précédent, c'était une passe incomplète. On a spoté le ballon au sol pour reprendre le jeu suivant, mais le juge de ligne, lui, a décidé que c'était pas le bon spot, donc il a bougé le ballon de nouveau. Donc, ils ont été obligés de demander de repartir ce qu'on appelle le play clock.
L'horloge.
Ouais. L'horloge du jeu. Pas l'horloge du match, là, mais le play clock. Là. C'est quand il y a 25
secondes. C'est ça. Puis là, ben, tu le remets à 25. Là.
C'est celui du match qui est reparti par erreur. Donc, les arbitres ont essayé de se dépêcher à dire « Non, non, là, le cadran de match doit pas repartir, c'est une passe incomplète, le temps est arrêté. » Il y en a un, semble-t-il, qui a tenté d'arrêter le jeu. Il a pas réussi, donc le jeu s'est joué. Personne n'a entendu que le jeu devait arrêter. Puis après ça, bon, on a annulé le jeu, mais on l'a repris. Mais c'est un peu bizarre. Normalement, les sifflets se font entendre, puis les arbitres arrivent au milieu du jeu, puis... T'sais, ça n'a pas été établi clairement, puis ça a fait très, très mal paraître la Ligue là-dessus.
Deux questions sur le Pro Bowl. On va commencer par celle de Tommy qui dit « Je ne sais pas si les exercices du concours d'habileté ont été publiés. Si oui, lequel vous attendez le plus et lequel aimeriez-vous voir? »
Ouf, le Pro Bowl, là, je me suis beaucoup désintéressé de ça dans les dernières années. Là, il y a une nouvelle formule cette année, il n'y a plus de match, on parle de concours d'habileté. J'ai pas vu tout ce qui était les concours comme tels cette année. Moi, ce que je me souviens dans le temps à l'époque qui m'intéressait, c'était tout ce qui impliquait les corps arrière, mettons, qui lance le plus loin ou viser des cibles en mouvement. Tu sais, je trouvais que c'était des éléments le fun à voir, là, tu sais, au moins c'est divertissant. Mais ce qu'il faudrait qu'ils ramènent par-dessus tout, là, c'était les fameux sprints. Ça, c'était le fun, de savoir qui est l'homme le plus rapide de la NFL. Ça, c'était toujours intéressant. Mais ce qui arrive aussi, là, c'est... tu sais, je me dis... C'est pas plus les meilleurs joueurs qui sont là au Pro Bowl. Tu sais, la plupart skip, soit qui ont des blessures, soit qui sont en série puis ils décident de pas y aller, soit que ça les tente tout simplement pas, ils veulent se reposer, ils ont une saison longue et difficile. Donc, on se retrouve avec des Tyler Huntley au Pro Bowl. Ça, là, c'est une joke. C'est pitoyable.
Quoi, cette année, là?
Oui.
Mais non.
Écoute, ils ont remplacé Josh Allen, crois-moi, crois-moi pas, par Tyler Huntley, le réserviste des Ravens. On est rendu là au Pro Bowl, là. Tu sais, pour moi, ça nous démontre à quel point c'est plus important. Ça. Moi, je surveille qui est les All-Pro, qui est sur la première équipe d'étoiles, la deuxième équipe d'étoiles. Ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que tu dis, tel gars a été dans sa vie 6 fois au Pro Bowl, ouais, mais Tyler Huntley va être allé au Pro Bowl.
Bon, ben ça m'amène à l'autre question de Sébastien. J'aurais une question pour la zone payante. Est-ce que la NFL ne devrait pas laisser tomber le Pro Bowl?
Oui. Tout simplement, moi, écoute, à part s'ils revivent ça d'une quelconque façon, là, c'est les Manning qui s'occupent des concours d'habileté, tu sais, on va leur laisser une chance. Mais à la base, si tes vedettes ne se présentent pas, moi, je vois pas d'utilité à ça, à part de donner un gros party à des gars qui le méritent pas nécessairement.
Il n'y a pas rien que les playoffs dans la vie, Mathieu nous dit. Merci pour votre podcast. Deux questions. Bon, ils se gardent. On va y aller à petits pas. On va commencer par la première. Les Jets se retrouvent devant un dilemme. Se lancer avec un QB d'expérience ou réessayer via le repêchage encore une fois. Avec leur alignement actuel, pensez-vous que ce serait la bonne décision?
Oui. Moi, c'est un faut qu'il y aille avec un vétéran. Là. Ça a assez niaisé. Puis, ils ont une équipe, sans parler d'une équipe à maturité, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunesse là, chez les Jets. Mais c'est une équipe qui est prête à compétitionner, qui est prête à passer au prochain niveau, puis tu sais pas assez ce que Zach Wilson va te donner. C'est très, très, très shaky jusqu'à maintenant. Là. On n'est pas convaincu loin de là. Puis je pense que les Jets sont rendus à un niveau où faut que tu saches là, qu'est-ce que tu as vraiment dans le ventre comme équipe avec un vrai corps arrière qui peut se débrouiller. Là. Est-ce que ça va être Aaron Rodgers? Je sais pas, tu sais, ils viennent d'embaucher Nathaniel Hackett comme coordonnateur à l'attaque.
Disons que les médias à New York font des gros push pour que ils soient considérés, mettons.
Pour ceux qui savent pas c'est quoi le lien Hackett-Rodgers, ben il était coordonnateur à l'attaque des Packers, évidemment, avant d'aller s'écraser comme l'entraîneur-chef des Broncos. Mais il reste respecté comme coordonnateur à l'attaque. Rodgers a une bonne entente avec lui. Est-ce que c'est ça qui pourrait l'amener à New York? On verra bien. Mais chose certaine, là, je pense que les Jets sont mûrs pour essayer de d'aller vers un vétéran encore qui n'ont pas besoin de développer par-dessus développer. Là.
Et la deuxième question, on va faire un bis pour Mathieu. Malgré le fiasco Zach Wilson, pensez-vous que l'équipe pourrait envisager de le garder comme carrière substitut pour essayer de le développer et lui donner une dernière chance?
Ben, en ce moment, pourquoi pas? Parce qu'il coûte pas cher. T'sais, il est encore sur son contrat recrue. Moi, pour l'instant, je vois pas de problème à le garder. C'est juste que tu y fais pas de promesses. T'essaies de dire qu'écoute, il va falloir qu'ils apprennent du vétéran qu'ils vont amener. Tant mieux si le vétéran en question peut l'aider. Là, je suis pas sûr qu'Aaron Rodgers va être le...
Ouais, le mentor parfait.
Le grand mentor parfait, idéal pour ça, là, tu sais. Mais en tout cas, on verra. Mais pour l'instant, question financièrement, là, c'est un bon move de garder Zach Wilson puis de dire, sait-on jamais tout à coup qu'il y a la grande illumination puis qu'il est encore avec nous, ben pourquoi pas?
Réjean nous dit, il y a plusieurs bons coachs dans la ligue actuellement, mais croyez-vous qu'Andy Reid est le meilleur stratège offensif de la ligue comme entraîneur-chef?
Ben, il y en a quelques bons, mais pour moi, là, je pense qu'il a prouvé hors de tout doute cette année que oui. Écoute, l'attaque des Chiefs qui a été métamorphosée là, par rapport aux dernières années. T'as plus Tyreek Hill, il y a une couple de receveurs qui sont partis aussi. Les Chiefs, depuis 2 ans, qui ont complètement transformé leur ligne à l'attaque. T'sais, il y a eu beaucoup de changements à Kansas City, mais la constante là-dedans, c'est Mahomes et Andy Reid. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est sûr, ils jouent avec Andy Reid, avec Mahomes, ça l'aide à bien paraître, oui. Mais tu sais, Andy Reid, toute sa carrière, tu regardes, il s'est adapté à différents styles, puis ils ont tout fait fonctionner. Tu sais, Alex Smith a eu des très bonnes années avec Andy Reid à Kansas City. Donovan McNabb, c'est un style complètement différent. Là, t'as Patrick Mahomes. Tu sais, je pense qu'il a fait ses preuves, Andy Reid. Puis en ce moment, moi, je vois pas qui. T'sais, si t'es un coordonnateur défensif, quel coach tu crains plus d'affronter que Andy Reid?
Simon nous pose la question. Jean-Nicolas et Stéphane, d'un point de vue personnel, quel match du Super Bowl vous a fourni le plus d'émotions fortes? Vas-y donc, toi.
Oh, c'est drôle, ça. Mais ça
c'est lui où les Vikings étaient, d'après moi, toi, non?
Non, lui où les Vikings étaient, j'étais pas né.
Moi non plus.
Puis, il y a été 4 fois, puis j'étais pas né les 4 fois. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, moi, c'est drôle, là. Je veux juste raconter une anecdote. C'est le Super Bowl 47 entre les Ravens et les Niners. C'était en Nouvelle-Orléans. Premièrement, c'est la première et seule fois que je suis allé là. De toute beauté, ça. Ceux qui ont la chance d'aller voir ça, là, Nouvelle-Orléans, c'est assez unique comme ville. Mais surtout, point de vue personnel, parce que je couvrais le Super Bowl pour le journal, puis il y a eu une panne de courant de 37 minutes.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Ça, quand tu as une heure de tomber pour remettre tes articles de match et d'après-match, tu paniques pas à peu près. Là. Le monde trouve ça bien rigolo. Là, ça fait des jokes à la panne de courant. Puis toi, tu essaies de négocier avec tes boss pour avoir une extension. Puis on te dit, non, on peut pas, là, les presses partent à telle heure, donc go, faut que tu nous livres ça. Puis écoute, c'est complètement déstabilisant comme expérience, tu sais, faut que tu livres ton matériel dans des conditions pas possibles. Fait que, parlant d'émotions fortes, là, puisque je me réfère à la question de Simon, ben ça, c'était des émotions fortes, pas à peu près en couvrant un match, là, je vais te dire.
Mais moi, on dirait que c'est sûr que mon souvenir le plus clair d'un Super Bowl où j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions, c'est le fameux Super Bowl où les Giants et le helmet catch.
David Tyree.
Exact, la passe de Eli Manning à David Tyree, parce que cette fois-là, j'étais à Paris et je regardais le match dans une chambre d'hôtel avec des amis, puis écoute, là, je pense qu'il était, je sais pas, rendu 4h du matin, 5h du matin, là. Puis on hurlait dans la chambre d'hôtel et on avait passé proche de se faire expulser de l'hôtel de Paris parce qu'on n'était pas capable de contenir nos émotions. On savait qu'il était tard, mais c'était trop d'émotions, là.
Une gang d'amis d'une chambre d'hôtel à Paris, habituellement, c'est gros comme un dé à coude, là.
En plus, c'est ça, là. Puis les murs sont en carton, là. Fait que c'était là, vraiment un match, là, d'abord, dont la fin, la route vers la finale avait été incroyable.
Ouais.
Et on n'était pas non plus des partisans des Pats, donc ça ajoutait à notre plaisir. Mais l'autre Super Bowl aussi qui me donne encore des émotions aujourd'hui, puis je suis pas capable de regarder la fin, là. Je détourne le regard, là. C'est une fin qui est trop crève-cœur pour moi, là. C'est le Super Bowl en 2015, je me souviens plus le numéro, lors de l'interception, la passe de Russell Wilson qui a été interceptée dans la zone début par Butler, alors qu'on avait décidé de pas donner le ballon
à Marshawn.
Ouais. Je te dis, là, je criais à la télé. Puis quand tu vois Marshawn en plus partir en motion, là, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est écrit dans le ciel qu'elle allait se faire intercepter. Puis encore aujourd'hui, je suis pas capable de revoir la reprise de cette fin de match-là qui avait donné la victoire aux Pats, c'est le Super Bowl.
Ah oui, c'était un grand Super Bowl, ça. Honnêtement, le match avait été fantastique.
Ouais. Kevin nous pose la question, devrait-on continuer le calendrier de la pré-saison au lieu de l'augmenter et tenter une approche 2-3 en play-off entre les équipes? Oh là là.
Ouais, ce serait de toute beauté, mais c'est impossible. C'est parce qu'un 2-3, la saison finirait jamais, ce serait trop long. Puis les risques de blessure seraient énormes pour les joueurs. Là, on le voit comment c'est l'hécatombe en ce moment. Là. Que ce soit Mahomes, Kelsey qui est blessé au dos, Purdy qui se démolit le coude. T'sais, les joueurs à ce stade-ci de la saison là, sont tous sur une jambe où ils ont tous quelque chose à gérer, sont tous en réhabilitation d'un bobo quelconque. Si t'amènes un 2-3 là-dedans, je comprends que d'un point de vue amateur, il y a bien des fois qu'on se dit « si ce club-là, il rejouait contre, peut-être que le résultat serait bien différent, mais non, tu peux pas. » Je pense que c'est tout simplement impossible.
Le retour de P.L. Rusovski qui nous pose la question, avec toutes les blessures au QB cette année, croyez-vous que la NFL devrait soit augmenter le roster des joueurs avec un joueur de plus, de faire comme avant, d'obliger les équipes à habiller un troisième carrière pour chaque équipe ou de continuer le statu quo? Il y avait aussi une autre solution qui avait été évoquée, là, c'était d'ajouter un troisième carrière, mais de pas faire en sorte d'ajouter un nouveau joueur sur le roster. Autrement dit, les équipes pouvaient ajouter un troisième carrière, mais c'est le seul joueur qu'ils pouvaient ajouter.
Ouais, moi, c'est comme ça que j'irais, honnêtement, là, pour faciliter la tâche des équipes, puis pas les obliger à prendre des décisions trop déchirantes, parce qu'on l'a vu, là, tu sais. Tu vas me dire un troisième corps arrière contre les Eagles, est-ce que ça aurait changé tant que ça? Peut-être pas, là, tu sais, c'est pas lui qui serait allé chercher la victoire, mais au moins, t'as un gars qui est en mesure d'être compétitif, là, tu sais. Puis tu ramènes pas un corps arrière blessé, ce qui était extrêmement dangereux. Avec du recul, tu regardes ça, là. Purdy a le ligament complètement détruit. Va falloir qu'il subisse une opération, là, on le sait pas encore pour l'instant, pourrait peut-être même être une opération à la Tommy John.
Mais on parle de 6 mois, là.
Ben, c'est 6 mois dans le meilleur des scénarios.
C'est ça.
T'sais, ça pourrait être pire encore. Fait que, t'sais, tu te dis, OK, on a ramené ce gars-là dans le match. C'est incroyable, pareil. Là. On a ramené ce gars-là dans le match. Donc, faut que tu fasses toutes les solutions possibles pour faciliter la vie des équipes pour qu'ils s'habillent un troisième carrière. Là, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Là.
Michel Fortin, on va en parler plus longuement la semaine prochaine, mais on va faire un petit début pour le match du Super Bowl. Votre feeling sur l'état de santé de Pat Mahomes ainsi que Jalen Hurts pour l'ultime match?
Ouais, ben, je pense qu'Hurts est en meilleure position. Tu sais, il a mal à l'épaule, là, oui, mais il est extrêmement bien protégé. Ça, c'est la première des choses. Puis, il peut toujours se rabattre sur un jeu au sol qui est très, très, très efficace, là. Donc, je dis pas que ce qu'il vit, c'est rien, mais Mahomes, vraiment, là, il y a une entorse à la cheville sévère. On l'a vu, plus le match avançait dimanche passé, plus ça semblait difficile, la mobilité. Puis, il y a une bonne ligne à l'attaque, mais loin d'être celle des Eagles. Puis, les deux bloqueurs particulièrement là, peuvent être moins fiables, surtout Andrew Wiley du côté droit. Donc ça, c'est plus dangereux, là, à mon sens, pour Mahomes. Les deux vont jouer, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Mais c'est lui qui est le plus hypothéqué en ce moment.
Alexis nous pose la question, est-ce que Mahomes, justement, est le QB le plus complet de l'histoire de la NFL? Peut-être un peu tôt, mais mettons avec l'échantillon qu'on a.
Ouais, c'est ça, c'est de bonheur. Mais tu sais, c'est sûr que ce qu'on voit, il y a tout, là, tu sais. On parle de Mahomes, là, sa capacité d'improviser, sa vision du jeu, les qualités athlétiques, évidemment. T'sais, c'est un gars très intelligent. Là, ça, de toute façon, pour runner une attaque d'Andy Reid, il faut que tu sois brillant, il faut que tu aies un bon QI football. On voit que c'est un bon leader, il est très apprécié de ses coéquipiers. Je pense que ça, il faut que tu le comptes dans la qualité d'un corps arrière aussi. Là. C'est pas vrai qu'ils sont tous appréciés comme ça. Il est précis, il a un bras canon, t'sais, il a tout. Il y a vraiment, en termes de talent, est-ce que c'est le plus complet? Probablement, là. Est-ce que maintenant c'est le meilleur? Il reste que Tom Brady est au sommet du palmarès. Je pense que c'est inévitable. Mais en termes de talent pur, pas le choix de considérer Mahomes. Là, on verra pour la suite de sa carrière, par contre. Il va falloir qu'il y ait une longévité aussi.
Guillaume nous pose la question, que pensez-vous de l'embauche de Sean Payton avec les Broncos? On en a un petit peu parlé tantôt.
Ouais.
Broncos
ouais.
Country, let's ride.
Et voilà. Ben c'est ça, on a pas mal fait le tour, mais je te dirais que pour revenir à mon point de départ, ça fait mal au cœur. Tu vois les choix qui partent, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, c'était clairement le meilleur esprit offensif disponible, ça, il n'y a pas de doute. Puis il y avait vraiment besoin d'un électrochoc. Donc, je suis pas contre le geste qu'ils ont posé là, pour essayer de relancer Russell Wilson et pour la suite des choses quand Wilson sera plus là.
Vous reconnaissez ce thème? C'est le moment de la question Robin, qui chaque semaine nous fait grâce d'une question. Et cette semaine encore, Robin, merci de nous avoir écrit. Que pensez-vous de l'acquisition par les Chargers du coordonnateur offensif des Cowboys? Un bon ou un très bon move pour Herbert? C'est vrai qu'il y a eu des changements chez les Cowboys. Un peu surprenant.
Oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu venir. Kellen Moore qui s'en va parce qu'il était courtisé même comme entraîneur-chef ailleurs. Là. Il y avait eu des entrevues dans quelques marchés.
Il fait un latéral là, pour parler en termes de ressources humaines.
Oui, c'est ça. Je pense, semble-t-il que la relation n'était pas au beau fixe avec Mike McCarthy. T'sais, il s'entendait peut-être plus tellement à la fin. C'est bon qu'il change d'air. C'est bon pour les Cowboys. C'est bon pour lui. Puis c'est encore mieux pour les Chargers, je pense. Tu regardes, il a été embauché là, combien d'heures après sa mise à pied? Ça, c'est bon signe. Habituellement, là, quand ça va aussi vite que ça, c'est qu'il n'y a pas de doute sur tes capacités. Il était attendu. Puis, juste, c'est intéressant parce qu'il est tombé, lui, coordonnateur offensif à Dallas en 2019. Dans ses années avec les Cowboys, l'attaque a fini 6e, 4e et 1e. Tu sais, la seule année qui a été hors du top 10, Kellen Moore, au niveau de son attaque, c'est il y a 2 ans quand Dak Prescott avait raté un bon bout de l'année. Puis tu regardes encore cette année, ils finissent 4e, puis Prescott a raté quoi, 6 matchs, je pense, ou 4, en tout cas. C'est vraiment, là, je pense qu'il a fait ses preuves, il se fait une bonne réputation, puis avec Justin Herbert, j'ai bien hâte de voir quel genre de flamèche ça peut faire.
Le seul malheur, c'est qu'il aura terminé sa carrière à Dallas avec un jeu qui va être rentré dans les annales, un peu absurde, là, de jeu de désespoir, mais qui aura complètement floppé.
Ah oui, ça c'est... Mais écoute, est-ce que c'est le jeu? Est-ce
non,
que
non,
c'est l'exécution?
Évidemment.
Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est... On le saura pas.
Puis on s'entend que les chances de réussite étaient minces. Puis
ouais.
Il y avait tout.
Ouais. C'est plate. Mike McCarthy, après sa conférence d'après-saison, il a dit « Je rentrerai pas dans les détails de ce jeu-là. » Il a pas voulu là, s'aventurer puis fournir des explications. À part de dire « Ça a pas marché comme ça devait. » Ouais, on s'en doute. Là. On saura pas vraiment qui était le responsable de ce grand fiasco.
Merci pour vos questions. Merci, chers auditeurs. Vous savez que chaque semaine, on veut répondre à vos questions. Vous êtes très nombreux à participer. C'est facile de nous rejoindre. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi écrire sur notre groupe Facebook nos meilleurs conseils de fantasy football. Et vous pouvez nous écrire par courriel à l'adresse suivante.
La zone payante à commercial québécoismedia.com.
Merci, Steph. Merci à vous. Après la pause, là... D'abord, vous savez que il y a plusieurs équipes qui ne sont pas au Super Bowl et qui auront des devoirs cette année. Vous êtes sans doute partisan d'une des équipes qui n'est pas au Super Bowl. Mais on va en parler après la pause. On va passer les 32 équipes et on va leur donner un devoir pour la saison de mort. Bougez pas. On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Stéphane Cadorette. Cette semaine, il n'y a pas de match. C'est malheureux. On met de la zone à la zone payante. Par contre, on vous oublie pas et on se dit que malgré qu'il n'y aura pas de prédiction, on s'est fait un bloc où on va passer les équipes en revue de la NFL et on va leur donner un devoir pour la saison morte. On va commencer cette semaine avec les équipes de la conférence nationale. Et la semaine prochaine, on fera la conférence américaine. Si tu veux bien, Steph, je vais te lancer des noms d'équipes et tu me diras qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant la saison morte pour s'améliorer.
Pour dire aux gens, là, on va y aller rondement parce que 16 équipes, on ne veut pas tomber d'un podcast de 3h15. Là.
Non.
Donc, un petit devoir rapido presto, puis on se dirige vers l'autre équipe.
On commence par la division S, les Cowboys de Dallas.
Faut trouver un autre receveur top pour Dak Prescott. Tu sais, bon, il y a, on le sait, là, il y a CeeDee Lamb, mais en dehors de ça, pas assez d'aide. Puis Dak, c'est un bon corps arrière, mais on commence à comprendre que c'est pas lui qui va élever l'attaque, c'est l'attaque autour de lui qui va l'élever. Donc, je pense que c'est la priorité à Dallas.
Giants de New York.
Ah, ben là, il va falloir négocier de brillante façon avec Daniel Jones et Saquon Barkley. C'est deux joueurs clés à l'attaque, le corps arrière, le porteur de ballon, qui tombe agent libre. Tu sais, certains qu'ils veulent ramener les deux. Mais il va falloir trouver une façon, je pense, de les garder les deux. Là, puis c'est là que ça peut se compliquer.
Les Eagles de Philadelphie.
Ah, ben là, le choix facile, ce serait d'aller gagner le Super Bowl. Là, mais on va aller voir un petit peu plus loin que ça. Les Eagles, ils ont le choix numéro 10 ils ont le choix numéro 10 au repêchage. Ça, c'est surprenant parce que tu te dis c'est une équipe forte qui est au Super Bowl. Comment ça qu'ils ont le choix là? C'est un échange avec les Saints au dernier repêchage. Donc, ils vont pas piger là dans le top 10 pour longtemps, les Eagles. Moi, j'aurais tendance à dire faut vraiment pas qu'ils se trompent. Il faut que ce soit un choix judicieux là, parce que les prochaines années, ils risquent de piger assez bas.
Les Commanders de Washington.
Ah! Le premier mandat pour moi, c'est vendez cette équipe-là. Faut que Daniel Snyder débarrasse du portrait au plus sacrant.
On va aller dans la division Nord maintenant. On va parler des Bears de Chicago.
Je te dirais tout.
Une équipe qui a une grosse entre-saison.
Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'argent. C'est l'équipe qui a le plus d'argent sous le plafond salarial. Donc, ils peuvent dépenser intelligemment, évidemment. Là.
Ils ont le premier choix au repêchage.
Ils ont le premier choix au repêchage. Avec tout ça, la priorité, c'est d'aider Justin Fields. Tu peux pas le laisser comme ça, à tout faire à lui tout seul, à courir 150 verges par match, à essayer de régler tout par la passe, sans receveur, sans protection. C'est vraiment le temps de montrer à Justin Fields, t'es notre homme, on va tout faire pour faciliter ta vie.
Les Lions de Détroit.
Ben, les Lions, ça va bien, mais historiquement, va voir un peu là tout ce qu'ils ont fait au travers des années. Ils ont une bonne saison, ils s'effondrent. Ils ont une bonne saison, ils s'effondrent. Ils collent à peu près jamais deux saisons gagnantes de suite. Très, très, très rare. C'est arrivé dans les dernières années avec Jim Caldwell, mais c'était deux saisons de 9 et 7. Là, rien de convaincant. Sinon, il faut remonter aux années 90. Donc, pour moi, ce serait de tout mettre les moyens en œuvre pour montrer qu'ils sont sérieux et qu'ils peuvent aller en chercher deux gagnantes de suite.
Packers de Green Bay.
Échanger Aaron Rodgers. J'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Il y a de plus en plus de rumeurs. Je pense qu'il faut que tu vois ce que tu as en Jordan Love. À un moment donné, si tu l'as repêché en première ronde en 2020, c'est toujours bien parce que tu croyais en lui, que tu veux le faire jouer, que tu penses qu'il peut te donner des bonnes années. Donc, obtiens la meilleure valeur que tu peux pour Rodgers puis un nouveau départ.
Et les Vikings du Minnesota, t'es mauve, mon Steph.
On met une grosse dynamite là, dans la défensive. On fait tout exploser puis on recommence. Là. Honnêtement, à part quelques morceaux ici et là, ça prend une grosse reconstruction là, au niveau de la défensive. Ça a été atroce l'année passée, mais encore plus cette année.
On s'en va dans la division sud, les Falcons d'Atlanta.
Ben, faut décider, là, puis avec conviction, est-ce qu'on y va avec un vétéran corps arrière ou on fait confiance à Desmond Ridder, qui a été une recrue qui a joué en fin de saison cette année? Il a rien fait de particulier. Est-ce qu'on lui fait confiance pour qu'il s'élève un petit peu? Est-ce qu'on y va avec un vétéran? Dans ces situations-là, faut que tu sois clair. Faut que ça soit affirmé clairement puis que tu prennes les décisions en conséquence. Faut pas que ça soit « on verra ». Donc, une grosse décision à prendre de ce côté-là.
On s'en va à Caroline pour parler des Panthers.
Écoute, là, c'est drôle. Moi, je vais te ramasser tout d'un tapon. Là. Les Panthers, les Saints, les Bucks, trouver un corps arrière. C'est la division où ça fait le plus défaut. Tu sais, même je te parlais des Falcons il y a deux secondes. Les quatre équipes de cette division-là, c'est pas clair. Il n'y a pas un chemin évident. Il n'y a pas une avenue là, tu sais, qui est « Ah, c'est lui notre homme ». C'est l'entre-saison où les quatre clubs de la division sud doivent vraiment trouver leur homme.
Hey, les Buccaneers, je veux même pas te dire…
Ben, il y a un jeune là-bas qui est Kyle Trask, mais écoute, on n'a tellement pas fait confiance. Il a à peu près pas joué. Puis quand Tom Brady jouait pas, c'était Blaine Gabbert qui jouait. Moi, ce que ça me dit, c'est que Kyle Trask a pas les… Il n'est pas en estime, disons, là, dans cette direction-là.
OK, on s'en va dans la division Ouest, les Cardinals de l'Arizona.
Ben là, premièrement, trouvez votre coach. Ils sont encore en recherche.
C'est vrai.
Ouais, c'est toujours pas fait. Puis ça va prendre un gars qui va allumer le feu en dessous de Kyler Murray, là, je pense.
Peut-être qu'attendre que le Super Bowl se termine en Arizona.
Ben, c'est visiblement vers ça, on dirait qu'il se dirige, là, mais tu sais, c'est ça, trouver le leader qui va faire en sorte que Kyler Murray va enfin s'allumer, puis peut-être plus être impliqué là, dans l'équipe, peut-être plus de leadership.
Les Rams de Los Angeles.
Bon, ben là, eux autres, je sais qu'il y avait des chandails l'an passé, F them picks, là, fuck them picks, puis que c'était pas important, puis qu'on en riait parce qu'on a gagné le Super Bowl, c'est correct. Mais là, faut commencer à penser au futur. Tu sais, là, il y a des rumeurs d'échanges concernant Jalen Ramsey. Aaron Donald, ça tire à sa fin. On sait pas, à chaque année, il y a des rumeurs de retraite. Sean McVay, même chose. Matthew Stafford, une autre grosse blessure cette année, il pourrait penser à la retraite. Donc là, OK, peut-être se donner une dernière go, là, comme on disait dans le fameux documentaire sur les Bulls de Chicago, One Last Dance. Mais faut vraiment commencer à penser au futur parce que le mur s'en vient.
Les 49ers de San Francisco.
Ouais, là, c'est trouver un plan clair pour les corps arrière. Il n'y a pas énormément de choses à changer dans cette équipe-là. Là. Il était près du but. Mais est-ce que tu y vas avec Purdy? Est-ce qu'il va être suffisamment remis de son opération? Est-ce que c'est Trey Lance qui mérite d'avoir enfin sa véritable chance comme partant? Là, on parlait de rumeurs avec Tom Brady. Là, ça vient de mourir. Donc, c'est ça. Faut trouver un plan clair là, pour les corps arrière. Puis, évidemment, out. J'en rajoute un vite. Je viens d'y penser, mais le contrat de Nick Bosa. Ça va influencer beaucoup là, sur comment on peut répartir l'argent ailleurs parce qu'il va commander un salaire d'au-dessus de 30 millions.
Est-ce qu'ils ont des chances de le taguer?
Ouais, mais c'est toujours mieux un contrat à long terme là, pour le joueur et pour l'équipe.
Les Seahawks de Seattle.
Les Seahawks de Seattle, ben, ce serait avec le choix numéro 5, mettre la main sur un vrai bon joueur pour appliquer la pression sur le corps arrière. Je pense que c'est là le plus important. T'sais, on l'a vu, c'est une équipe qui s'est reconstruite rapidement. Il n'y a pas énormément de lacunes, mais ça, c'en est une. Je pense que c'est la principale chose à combler. Puis avec le choix 5, c'est l'idéal.
Merci, Steph. 16 équipes, on a passé à travers toutes les équipes de la conférence nationale. La semaine prochaine, on passera à travers les équipes de la conférence américaine. Et on va voir aussi quelle des deux conférences partira avec le Super Bowl dans deux semaines. C'est après toi, c'est laquelle la conférence qui est la plus forte des deux?
La conférence la plus forte, c'est l'américaine, mais ça veut rien dire. Tu sais, quand même que tu as plus de bons clubs dans l'américaine, ils s'entretuent. Donc, tu arrives avec une équipe comme les Eagles qui a dominé à tous les points de vue, qui est l'équipe qui a le plus de profondeur. Moi, honnêtement, je suis pas prêt à dire que parce que la conférence américaine est plus forte, les Chiefs partent favoris. Je suis loin d'être convaincu de ça.
OK, merci Steph. Après la pause, c'est le temps d'aller au bar avec nos punis de la semaine. Bougez pas. I got a hangover. On est de retour à la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean-Nicolas Gagné, moi-même, et on vous parle du bar cette semaine parce qu'il y a des gens qui méritent d'y aller. Et on va entendre d'ailleurs, Steph, si tu veux bien, ton invité au bar, le maire de Cincinnati, pour débuter. Après ça, tu nous expliqueras qu'est-ce qu'il y en est.
Good afternoon, Cincinnati. I have a proclamation from the desk of the mayor. Be it proclaimed, whereas the Cincinnati Bengals are headed to Burrowhead Stadium for their second consecutive AFC Championship game. Whereas at last year's game, the Bengals scored more points than the Chiefs, resulting in a Bengals victory and a Chiefs loss. Whereas Joseph Lee Burrow, who's 3-0 against Mahomes, has been asked by officials to take a paternity test, confirming whether or not he's his father.
Alors, on vient d'entendre le maire de Cincinnati. Il y a plusieurs qui ont reproché à l'ensemble des joueurs des Bengals et de leur entourage d'être un petit peu cocky.
Ah oui, il y avait de l'arrogance là, quand même. Puis c'est ça. Écoute, le maire de Cincinnati, si je t'avais dit au départ, j'envoie Aftab Purval au bar, tu m'aurais dit, mais de qui c'est tu parles? Fait que c'est ça, c'est le maire de Cincinnati. Lui, bon, avant le match, il avait eu la bonne idée de diffuser une vidéo dans laquelle il dit, entre autres, que les Bengals vont envahir le Burrowhead Stadium plutôt que le Arrowhead. Puis il disait que Joe Burrow devrait passer un test de paternité pour voir si c'était pas lui le père de Patrick Mahomes, Mahomes Daddy. Écoute, c'est que je comprends là que tu veux mettre un petit peu de fun là-dedans. C'est de bonne guerre, c'est drôle.
Faire un vidéo viral.
Mais là, tu sais, il l'a eu d'un dent, pas à peu près. Là. Puis tu sais, la réponse de Travis Kelce après le match de finale, quand il s'est mis à imiter The Rock puis à dire « Know your role and shut your mouth », c'était assez spectaculaire. Donc, le maire qui aurait pu se garder une petite gêne, tu crains pas une équipe inutilement. Puis ceux qui se disent, bah, les Chiefs étaient peut-être même pas au courant. Oui, oui, là, tu sais, avant le match, Chris Jones, entre autres, avait fait des commentaires à l'effet que, on se voit dimanche au Burrowhead. Tu sais, il avait pas apprécié. Plusieurs joueurs des Chiefs qui ont paru piqués par ça. Donc, c'était pas la bonne chose à faire, disons, pour monsieur le maire.
Mais ça rentrait quand même dans l'ambiance
oui.
générale autour de l'équipe que la confiance était à son maximum et qu'il l'exprimait là.
Oui, tu sais, c'est ça. C'était
ça commençait par Joe Burrow. Joe Burrow, j'ai pas trouvé que sa semaine était en toute humilité puis qu'il avait l'air de se concentrer sur son match à venir.
Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné. Tu peux le faire des commentaires, puis ça met du fun. Honnêtement, c'est dur de dire que ça met pas un peu de piquant autour d'un match. Donc, tu veux ça, mais d'un autre côté, d'un point de vue compétitif, moi, je continue de croire que ça a piqué les Chiefs au vif. Là. T'sais, c'est pas ça qui les a fait gagner, on s'entend.
Mais, non, mais si écoute, quand on parle après le match, ça veut dire qu'ils l'avaient en tête. Là.
Ben, ils l'ont eu de travers dans la gorge, puis ils ont voulu prouver que c'était une bande d'arrogants. T'sais. Fait que, tu donnes pas d'avantage compétitif, quel qu'il soit, là. Puis bon, ça faisait partie du un petit peu trop là, qui a été dit cette semaine. Fait que monsieur le maire, qu'est-ce qu'on boit, monsieur le maire? Je vais t'expliquer ça, Jean-Nic. Ça s'appelle.
Sans prix.
J'ai trouvé ça, j'étais surpris en faisant des recherches exhaustives. Ça s'appelle un Buzz Button Cocktail. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. 1,5 once de tequila. 1 once de sirop de gingembre, de la lime et une fleur Buzz Button. Qu'est-ce que ça fait dans vie, une fleur Buzz Button? C'est que ceux qui servent ce cocktail-là, c'est particulier. Tu demandes à celui qui boit de mâcher la fleur pendant au moins 10 secondes. Ensuite, la bouche devient engourdie, complètement engourdie. C'est un effet qui n'est pas permanent, là, évidemment. Là. Mais tu sais, on veut juste montrer à monsieur le maire de Cincinnati que vaut mieux mâcher un Buzz Button que de dire des âneries. Ça va peut-être l'aider pour une future déclaration peut-être plus importante dans le milieu de la politique, on ne sait pas, là, à s'engourdir un peu plutôt que de dire des niaiseries. Là. Donc, c'est une petite tape sur les doigts.
C'est bien. Moi, écoute... Tu te souviens, la semaine passée, j'ai envoyé au bar les Bills et Damar Hamlin pour avoir faim d'apparaître au match, alors que c'était clairement une conspiration, que Damar Hamlin n'était pas là. Mais là, cette semaine, là, Damar Hamlin est sorti, il a dit qu'il était vraiment allé au match. Je vais le croire, je vais penser vraiment que c'est lui. Mais là, j'ai une nouvelle...
Il a fait une vidéo, là, mais je sais pas, c'était-tu lui ou...
Ben, je le crois, là. Là, tu vois, j'ai abandonné mes esprits conspirationnistes pour Damar Hamlin. Je pense qu'il était vraiment au match, là. Après en avoir douté, là, il était vraiment là. Mm-hmm. Mais là, j'ai un nouveau combat conspirationniste pour toi, Steph.
Oh, je t'écoute.
La NFL est rigged.
Ah, ça, je l'ai vu cette semaine. Vu, là.
Parce que, tu sais ce qu'ils voulaient, la NFL, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient les Chiefs au Super Bowl.
Ils voulaient les Chiefs, ouais.
Là, toutes les là, depuis quelques jours, il y a plusieurs séquences sur les réseaux sociaux, les gens qui se présentent, des photos, tu sais, là. Écoute, moi, j'avais pas d'équipe, j'avais pas vraiment d'implication émotive dans les matchs en fin de semaine, mais faut quand même reconnaître que autant dans le match des Eagles contre les 49ers où il y a eu de la brasse camarade après le match ou vers la fin du match. Il y a eu des décisions, entre autres le catch de Devante Adams en début de match là, tu sais, qui a donné quand même un rythme aux Eagles. Il y a des décisions douteuses aussi.
Devante Smith, tu veux dire?
Ouais, qu'est-ce que j'ai dit?
Devante Adams.
Ah oui, non, Devante Smith,
ouais.
Il y a eu aussi là, toutes sortes de décisions qu'on aurait pu dire ouais, c'est bizarre. Puis jamais autant que dans le match des Bengals, on en a parlé un petit peu tantôt, mais plusieurs décisions là, qui étaient inconstantes, là, puis qui ont soulevé l'ire aussi de Zach Taylor, peut-être avec raison. Mais là, de là à dire que la NFL est rigged, là, imaginez là, ah, toutes
si,
les gens
qui si seraient dans le. La NFL est truquée, là. Est-ce que si la NFL est truquée, moi je comprends pas, vu que la NFL est truquée, t'amènes tes grosses équipes là, qui tirent des grosses cotes d'écoute, les Cowboys, t'es amènes à chaque année en finale de conférence. Les deux clubs de New York sont pas pourris depuis 10 ans. Tu sais, un marché télévisuel majeur. Je pense que Houston est comme le peut-être dans le top 5 des marchés télévisuels. Ça peut pas être un club aussi pourri, là.
Non, non, puis tu peux pas embarquer 60 joueurs, quasiment autant de coachs, dans une grande conspiration pour amener les Chiefs en plus au Super Bowl. Là. Comme tu dis, c'est pas comme si les Chiefs, c'était le plus grand marché de l'histoire. Là. Fait que, pas fort, les refs, là. C'est rare là, que je dis ah, les arbitres ont. Mais tu sais, les arbitres ont décidé de la fin du match, là. À Kansas City. Là. La pénalité de 15 verges, c'était pas...
Mais elle était méritée.
Elle était méritée, là, mais ouais. Ils ont décidé, je veux dire, la conséquence, c'est quand même qu'ils ont donné le botté de placement faisable alors que avant la pénalité, il l'était pas. Fait, je vais envoyer tous ceux quand même qui pensent que la NFL est truquée au bord pour aller réfléchir. Là, sans franchement là deux en deux là, de, là après avoir vu des conspirations autour de Damar Hamlin là de penser que la NFL est truquée puis d'en faire comme des photos montages puis des franchement il y a du monde qui a beaucoup de temps à perdre, je vais les envoyer au bar boire le cocktail Dazed and Confused. Ça va peut-être les réveiller un peu. Donc le rapidement là, le Dazed and Confused il y a plusieurs recettes d'abord là. Mais je vais prendre celle qui vient de l'Australie. 45 millilitres de Ahus Avavit. Je sais pas quel genre de boisson que c'est. Mais ensuite, un peu de citron et du Cardamom Bitters. On va te dire, là, ça me prend mon dictionnaire anglais-français pour parler de la recette du Dazed and Confused. Et on finit ça avec un peu de jus d'orange. Pour continuer dans la confusion. Donc, ceux et celles qui pensent que la NFL est truquée, là, allez au bar, prenez un bon Dazed and Confused, puis on se reparle la semaine prochaine. Et c'est la même chose pour toi et pour nous, Steph. On se reparle la semaine prochaine?
Oui, en direct de l'Arizona, mon cher.
Ouh, tu seras au Super Bowl déjà, c'est vrai. Et moi, je serai dans le confort de mon salon. Et on pourra aussi prendre les questions des auditeurs. On va aussi passer les 16 autres équipes en revue pour leur devoir de la saison. On va surtout faire nos prédictions pour le Super Bowl. On va décortiquer le match. Soyez là la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, bonne semaine à vous. Bonne semaine, Steph. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye.